Vous écoutez RTL.
Chance est peut-être la force la plus mystérieuse et capricieuse de l'univers.
La curiosité est un vilain défaut.
Pourquoi certains gagnent-ils au loto deux fois ? Le pur hasard décide-t-il de notre sort ou chaque lancer de dés est-il prédéterminé par la physique ? Les scientifiques tentent de défier les lois de la probabilité pour savoir si la chance existe ou pas.
C'est ta chance. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le cadeau de ta naissance.
Curiosité, on aime bien Jean-Jacques Goldman et on aime bien aussi se poser des questions toutes simples et on se rend compte que souvent les questions sont complexes et riches en anecdotes. Les réponses sont complexes et riches en anecdotes. Merci Sidonie. Et avec Sidonie et avec Coralie Dutinier, notre programmatrice, on s'est demandé tout simplement c'est quoi la chance. Bonsoir Eric Thierry.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous avez travaillé pour de nombreuses émissions télé, le journal de la santé, c'est pas sorcier ou Thalassa, et vous publiez le petit livre de la chance aux éditions du Pommier. Vous êtes donc la bonne personne. Personne pour répondre à cette question. Tiens, on va commencer par la sémantique. Ils aiment bien, ici, on aime bien le sens des mots. C'est quoi l'origine du mot chance ?
Alors, l'origine du mot chance, c'est choir. La chance, ça tombe bien.
Ça tombe, ça choix.
Ou ça nous tombe dessus même, c'est
ou ça nous tombe dessus parce que dans les mots qui sont liés à la chance, il y a l'échéance, il y a la déchéance, il y a la cadence, il y a aussi les feuilles caduques des arbres. Et pour ce qui est de tomber, il y a aussi le cadavre. Le cadavre est lié à la chance, étymologiquement.
Et dans pays du Nord, par exemple, luck en anglais, ou je ne sais pas si je le dis
Gluck.
Bien, Glück en allemand, ça vient d'où ? Ça veut dire quoi ?
Alors, ça vient du mot d'ancien français qui est Glück, qui est lié au hasard lui aussi.
Donc là, c'est hasard et pas chance du coup.
Oui, parce que la chance et le hasard, ce n'est pas exactement la même chose. Le hasard donne la chance ou la malchance, mais l'un est issu de l'autre.
Ah oui, d'accord. Et le mot hasard, alors, il vient d'où ?
Alors,
il veut dire quoi ?
Le mot hasard, il vient de l'arabe. Il vient du mot alzar, c'était un dé ou un jeu de dés. Et sur l'une des faces du dé, il y avait une petite fleur qui était dessinée. Et c'était cette face du dé qui était la face gagnante.
Souvent, Thomas rentre dans le bureau et dit « J'ai la baraka aujourd'hui
!» Tu rigoles.
C'est aussi d'origine arabe.
Alors oui, la baraka, c'est aussi d'origine arabe. Et c'est l'influence bénéfique que l'on attribuait aux saints. Les saints jouaient en votre faveur. Et donc, vous attribuez la baraka.
Ah, c'est passionnant. Alors bon, là, on a compris d'où venaient les mots, quelques-uns des mots qui désignent la chance ou le hasard. Vous nous l'avez dit, on va voir que c'est différent. D'abord, pour bien comprendre quand même, qu'est-ce que ça peut être la chance dans la vie d'un homme ? L'histoire d'un homme chanceux, tiens, racontée sur RTL par Jacques Pladel et Henri Gougaud, c'était dans Les Aventuriers de l'Impossible.
C'est une histoire absolument extraordinaire. 5 naufrages pour un miracle.
Et elle commence en hiver 1829 dans le port de Sydney. Un cargo, la Mermaid, quitte le port. 18 matelots et 3 passagers sont à bord. Au 4e jour de navigation, une tempête pousse le navire contre une ligne de récifs. Naufrage, par miracle, il n'en manque pas un. 2 jours passent. Un trois-mâts apparaît au large, il les repère, il les embarque, il se croit sauvé. Ils ont tort. 5 jours plus tard, un courant irrésistible jette le bateau contre la côte. 2e naufrage, une goélette qui passe par là les tire d'affaires. Cette fois encore, tout le monde est sain et sauf. À peine sont-ils à bord qu'un incendie se déclare. 3e naufrage, un côtre les recueille, tempête, 4e naufrage. Les hommes s'accrochent aux épaves, un bateau de pêche les sauve, heurte un écueil, 5e naufrage. Le paquebot City of Leeds recueille tout le monde. À bord du City of Leeds est une vieille dame, une vieille anglaise malade. Elle s'appelle Sarah Richley. Elle se rend en Australie pour essayer de retrouver son fils, parce que son fils est engagé dans la marine, elle est sans nouvelles de lui depuis 10 ans. Mais elle ne va pas fort, la vieille dame. Elle délire, elle appelle son fils. Alors le médecin du bord pense à lui présenter un jeune homme qu'il ferait passer pour le garçon perdu. Un marin de la Mermaid accepte le rôle. Cette dame s'appelle Sarah Richley, lui dit le médecin. Elle vient du Yorkshire. Le matelot blêmit. Docteur, je m'appelle Peter Richley. Cette femme est ma mère.
C'est absolument dingue, on a du mal à croire cette histoire et c'est pour ça qu'on a voulu la réécouter in extenso. Il échappe à 5 naufrages et retrouve sa mère.
Ça fera peut-être l'objet d'une autre curiosité.
Oui, alors c'est quoi? C'est de la chance? C'est un concours de circonstances?
C'est un concours de circonstances. C'est notre interprétation qui fait qu'on trouve ça absolument extraordinaire. Imaginons que le médecin, au lieu de s'adresser à Peter Richley, s'adresse à un autre marin et présente cet autre marin à la vieille dame. À ce moment-là, l'histoire n'existe plus.
Ou alors c'est juste une histoire de malchance.
C'est juste une histoire de naufrage.
Cinq naufrages.
Attendez, ce que vous dites est intéressant. C'est nous, donc tout ça c'est du hasard, concours de circonstances, hasard. C'est nous qui, dans notre cerveau, cherchons à donner du sens à ce qui n'en a pas, ce qui nous étonne, ce qui nous surprend, c'est ça?
Exactement. Quand vous êtes, il y a des gens qui étudient ça, qui étudient des phénomènes extraordinaires. Par exemple, vous êtes dans le TGV, place 44, voiture 4, et il est 4h44 et le train démarre. Et il y a des gens qui vont se dire, c'est absolument extraordinaire, c'est un signe du destin.
Je vais jouer le 4 au loto.
Il y a forcément quelque chose de caché là derrière.
Parce que les hommes ont besoin de croire.
On a besoin de comprendre et on a besoin de mettre du sens sur une chose qui est inconnue. Et en fait, il n'y a absolument aucun sens, aucun dessin caché derrière tout ça.
Vous écoutez RTL.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La curiosité de découvrir l'origine de la chance avec notre invité, le journaliste Éric Thierry. Alors, on est un peu déçus, vous nous avez dit que la chance, ça n'existait pas, que c'était une construction de notre cerveau. D'ailleurs, les scientifiques parlent précisément d'un biais d'optimisme. Ça veut dire quoi, cette formule?
Eh bien, l'une des fonctions principales de notre cerveau, c'est de prévoir l'avenir. Et on pourrait croire qu'on est tout à fait objectif et rigoureux quand on prévoit l'avenir. En fait, il n'en est rien. On a une zone du cerveau qui est chargée de coder les informations que l'on reçoit. Donc, vous imaginez l'avenir, vous imaginez que les choses vont se passer de telle façon.
Bien ou mal, en fait, en fonction de notre caractère.
Bien ou mal. Et vous apprenez, en réalité, que les circonstances sont plus ou moins favorables. Comment votre cerveau va tenir compte de cette nouvelle information. Et on s'est aperçu que quand l'information était très positive, par exemple, on vous demande d'évaluer le risque de déclarer un cancer, vous dites que vous avez 10% de déclarer un cancer, et on vous apprend que c'est 30%, là, ce n'est pas très favorable. Si vous estimez votre risque à 40% et qu'on vous dit que c'est 30%, là, c'est plus favorable. Quand l'information que vous recevez est très favorable, votre cerveau en tient vraiment compte et vous réévaluez d'autant mieux votre vision de l'avenir. Et quand l'information est mauvaise, désagréable, vous tenez beaucoup moins compte de cette information et votre évaluation est beaucoup moins fine. Bon, en fait, le biais d'optimisme, ça n'a rien à voir avec les 10 ou les 40%, c'est la finesse avec laquelle vous tenez compte de l'information. Et vous en tenez d'autant plus compte que ce que l'on vous annonce est positif. C'est
d'accord.
Ça le biais d'optimisme. Et c'est
et câblé. Ça peut être utilisé par des publicitaires, pour faire passer des messages publics, par exemple.
Oui, tout à fait.
Il faut s'adresser à cette partie du cerveau, si j'ai bien compris.
Alors, on ne s'adresse pas à cette partie du cerveau, parce que c'est un peu réducteur, en fait, ouais. De dire qu'on a dans le cerveau une aire de l'optimisme qui nous fait voir la vie en rose et qui ferait globalement qu'on serait en meilleure santé parce qu'on verrait la vie en rose. Mais par contre, on peut utiliser cette aire du cerveau, par exemple sur les paquets de tabac, plutôt que dire que le tabac tue, dire quelque chose de plus positif. 80% des personnes qui arrêtent de fumer, enfin qui essayent, réussissent.
Ah donc vous préconisez ça, vous pensez que sur les paquets, il faudrait plutôt mettre un message positif.
Alors c'est pas moi qui le préconise,
enfin, bon.
c'est Tali Charrot, une chercheuse anglaise, qui dit que ça serait beaucoup plus percutant d'utiliser ce biais d'optimisme comme cela.
Éric Thierry, la chance est aussi une question de point de vue, et j'emprunte pas cette expression par hasard. Quelle est l'histoire de Michael May?
Alors, Michael May, c'est un petit garçon qui a 3 ans, a eu un accident, il est devenu aveugle, il a perdu un œil, il est devenu aveugle de
l'autre œil.
De l'autre. Bon. Sa vie s'est passée comme la vie de n'importe quel petit garçon aveugle. Il était sportif, plein d'entrain. Il a même fait les Jeux Olympiques pour les Américains. C'est devenu un champion. Il a rencontré Ronald Reagan. C'était un battant dans la vie. Et puis, 40 ans plus tard, un ophtalmologiste lui propose de lui greffer des cellules souches sur son œil. L'œil qui lui reste. C'est risqué parce qu'il peut... Cet œil fonctionne encore, mais il peut le perdre. Il peut voir aussi. Il tente l'aventure, l'opération se réussit bien, il recouvre la vue. Mais là, son cerveau n'en fait rien. Son cerveau reçoit énormément d'informations et son cerveau est câblé pour être un cerveau d'aveugle, ouais, et pas pour être un cerveau de voyant.
Et donc, les lumières, les couleurs, tout ça, le cerveau n'en veut pas d'une certaine
alors,
façon.
Alors, a du mal à le traiter.
C'est dingue.
Alors qu'aveugle, il arrive à skier, voyant, il n'arrive plus à skier. Il ne reconnaît pas son fils, il a du mal à reconnaître les traits de son fils. Et 10 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, il est obligé encore, alors qu'il voit, d'avoir son chien guide d'aveugle et il ne peut toujours pas lire. Alors qu'il voit les lettres sur les feuilles, ouais, de papier, il ne peut pas les lire. Son cerveau ne décode pas ces informations.
Et vous racontez cette histoire dans le petit livre de la chance publié aux éditions Le Pommier, parce que finalement ce que nous, on pourrait penser comme une chance pour ce Michael May, c'est-à-dire cette opération qui lui a permis de recouvrir la vue, finalement... C'en était pas une.
Eh bien, ça le laisse dans un entre-deux. Il n'est plus tout à fait aveugle et pas tout à fait voyant.
Éric Thierry, on parlait tout à l'heure des objets qui portent chance. On en trouve dans toutes les civilisations. L'incarnation de la chance dans un objet ?
On a besoin d'objets pour donner du corps à la chance. Ça va être le pied de la statue que l'on caresse. Ça va être les pièces que l'on jette dans la fontaine en Italie. Trévis, ouais.
Le trèfle à quatre feuilles qu'on cherche désespérément.
Voilà, le fer à cheval. Ou aussi au Japon, par exemple, on peut acheter de la chance sous le biais de petits talismans. Mm-hmm. Et ce qui fait en sorte, c'est assez drôle, que la chance a une durée de vie limitée. Parce que le talisman, lui, va s'arrêter de fonctionner au bout d'un certain temps, ce qui permet aussi de faire fonctionner le petit commerce.
Alors en Mongolie, petit commerce ou gros commerce, allez savoir. En tout cas, le public doit toucher une partie du corps, c'est ça, du lutteur, pour avoir de la chance.
Alors non.
J'ose pas vous demander laquelle.
Celle qui est la plus apparente, on va dire, c'est moi.
D'accord.
Mais pourquoi alors, en fait, c'est quoi la chance du lutteur? Je comprends pas.
L'idée, c'est que la chance doit s'incarner. Et elle s'incarne dans le lutteur mongol qui a gagné le combat. Et sa sueur représente la chance.
Oui,
donc les gens s'approprient la chance.
Ils viennent toucher le lutteur, gratter la sueur.
Ils viennent gratter la sueur du lutteur mongol pour récupérer de la chance. Un petit peu comme les Japonais.
Alors,
avec leur...
Si on n'aime pas justement toucher trop la sueur, on peut aller au Japon et là on peut acheter la chance. Sous quelle forme?
Alors la chance s'achète sous forme de talisman.
Et puis je le disais tout à l'heure, en France il y a le pompon du marin. Est-ce que vous savez pourquoi il porte chance?
Ce que je peux vous dire, c'est que c'est au marin que ça porte chance. Parce que ça lui donne de bonnes opportunités d'embrasser des jolies filles.
Ah bah bravo.
Ah oui, parce qu'en préparant l'émission, j'ai lu, c'était très précis. Il faut toucher le pompon avec l'index gauche sans que le marin ne s'en aperçoive pour gagner 24 heures de chance. Si dans une même journée, on arrive à toucher 3 pompons, ça équivaut à 3 semaines de chance. Et si effectivement, Éric Thierry, le marin se rend compte qu'une fille a réussi à toucher son pompon, il lui réclame un baiser en gage. Donc vous avez raison, je pense que ce mythe a été inventé par les marins pour pouvoir embrasser les filles.
Vous écoutez RTL.
Le premier secret pour avoir de la chance, c'est l'intention. Il faut vouloir. Il faut savoir ce qu'on veut. Ensuite, il y a un problème d'attention, de disponibilité aux choses. Il faut être ouvert.
Aux enfants de la chance, qui n'ont jamais connu les trans, des et du shit.
La curiosité est un vilain défaut.
Ensuite, derrière, il y a une troisième compétence quand même clé, ce que j'appelle le recyclage. C'est que la caractéristique de tous les gens qui ont beaucoup de chance, c'est qu'ils ont eu plein de malchance. Ils en ont fait quelque chose.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Transformer sa malchance en chance, c'est ce que propose ce prof en comportement Philippe Gabillet. Éric Thierry, dans votre petit livre de la chance aux éditions du Pommier, il y a ça, d'une certaine façon, avec ce Français Jean-François Darrow qu'on a surnommé l'homme le plus malchanceux de France. Qu'est-ce qui lui vaut ce surnom déjà?
Ah bah, tout simplement le nombre de jours d'hôpital qu'il accumule.
Combien?
2317.
Combien d'années? Il a quel âge?
Il a 60 ans.
Ah ouais.
Ça fait quand même pas mal.
2317.
Oui, 1105 jours dans le plâtre, 43 accidents graves, 50 fractures, 7 mois de paralysie et 4 comas. Et pour un seul homme,
donc
c'est quand même énorme.
C'est un survivant.
Oui.
On pourrait presque, si je suis vanneur, je vais dire c'est pas de la malchance, c'est de la maladresse, quoi. C'est pas possible d'en cumuler autant. Mais vous dites c'est un survivant. Il a su transformer sa malchance, c'est ça?
Oui, alors au départ, non, parce que quand tout ça vous tombe dessus, oui. Au départ, c'est normal, parce que quand il était petit, il était déjà malchanceux. Et il pensait que tout le monde était comme lui. Il s'est aperçu que les gens n'étaient pas aussi malchanceux que lui. Oui. À 18 ans, quand un journaliste a commencé à vouloir faire un papier sur son histoire. Et puis, réalisant que la malchance lui tombait dessus, il l'a mal pris à un moment donné. Il a même tenté de se suicider.
Ouais.
Mais depuis, en acceptant temps et en refusant de trouver du sens à cette accumulation de malchance, ça va beaucoup mieux pour lui. Et pour lui avoir téléphoné à plusieurs reprises et régulièrement, moi je me suis aperçu que c'était un incroyable résilient et qu'il vaut mieux que ce soit tombé sur lui plutôt que sur quelqu'un d'autre, parce que c'est quelqu'un qui est très fort de caractère.
Quelqu'un qui est résilient, on le rappelle, c'est quelqu'un qui réussit à transformer ses épreuves finalement en force et qui en sort plus fort qu'avant.
Ça veut Exactement. Dire que la chance n'existe pas, vous nous avez dit ça, mais la malchance non plus, et c'est plutôt rassurant quelque part.
Oui, mais par contre ça nous laisse devant un vide. Ça nous laisse devant un vide, puisque chance et malchance n'existent pas. Et comme notre cerveau est câblé, on va essayer de trouver du sens à tout ça.
Alors, puisque le cerveau joue, on parlait beaucoup du cerveau, joue vraiment un rôle important dans la représentation de la chance, est-ce qu'on peut être drogué à la chance?
Oui, il y a des comportements types. Et ça, les addictologues qui s'occupent des joueurs compulsifs le disent bien. Il y a les personnes qui ont gagné une première fois, par exemple, au loto, qui vont se croire élus des dieux et qui vont chercher compulsivement à retrouver leur chance. Le deuxième profil, ce sont les gens qui veulent défier les dieux, qui vont avoir des comportements à risque, que ce soit au jeu ou dans le sport. Ce sont des gens qui sont accros à l'adrénaline. Et puis, il y a aussi des gens qui vont se dire « ça y est, moi j'ai eu mon quota de malchance, maintenant le destin me doit de la chance ». Et là aussi, ils vont développer des comportements addictifs au jeu. Ça aurait pu être le cas de Jean-François Darrow, mais parce que lui ne met pas de sens à ce qui lui arrive, ouais, ne tombe pas dans cette catégorie-là.
Et il a une jolie formule que vous citez dans votre petit livre de la chance. Il dit « Je suis un handicapé du hasard ».
Oui.
C'est assez joliment dit.
C'est très joli.
Quand on a subi autant d'accidents et de jours d'hôpital, vous parliez de jeux, de casinos, de loto. Est-ce qu'il y a des numéros qui ont plus de chances que d'autres de sortir au loto?
Non. Non, la combinaison au loto à 6 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a autant de chances de sortir que n'importe quel autre. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à ma connaissance, elle n'est jamais sortie. Toutes les combinaisons peuvent sortir. Par contre,
On analyse les statistiques du loto, on va peut-être quand même trouver des chiffres qui sont plus sortis que d'autres.
Oui, ça c'est prévu, parce qu'on sait que la chance a une forme, c'est la force d'une jolie courbe en forme de cloche,
ouais.
Quels que soient les pays. On remarque que tous les tirages du loto correspondent à cette forme de courbe en cloche.
Comme une équation mathématique,
comme
en quelque sorte.
Comme une équation mathématique.
Mais la chance, c'est des maths.
Oui, la chance, c'est...
Des probabilités, on l'entendait tout à l'heure dans la mise en œuvre d'André Facetta. Il y a des probabilités dans la chance. C'est quoi, par exemple, quand on lance les dés?
Alors, quand on lance les dés, c'est le début des probabilités.
Donc, on a une chance sur 6 de tomber sur le chiffre qu'on a choisi.
Sur n'importe quel chiffre.
Oui.
Oui.
Et c'est ce qu'a compris l'inventeur des probabilités, c'est ça?
Oui, mais il l'a compris justement pour tricher.
Comment
c'est
ça
drôle.
Et bien Cardano, lui, ce qu'il voulait, c'était tricher au dé. Et donc, il a commencé à étudier les dés et il en a déduit les premières règles de la probabilité.
Alors, puisqu'on parle de jeu, j'aimerais vous poser une question sur le casino. Moi, je ne suis pas joueur, mais quand je vois des gens qui sont là compulsivement sur les bandits manchots, là, sur les ça ne s'appelle plus comme ça depuis longtemps, je sais, mais sur
je n'ai rien dit.
C'est mon Lucky Luke ça, qui me revient, sur les machines à sous, de toute façon, c'est le casino qui gagne toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ont programmé leur machine?
Alors oui, là, c'est de la chance mécanique. On n'est plus dans le tirage du loto avec des boules qui pèsent toutes le même poids.
Ouais.
C'est un logiciel, c'est ça?
C'est un logiciel, mais la législation fait en sorte qu'aux États-Unis comme en France, le casino ne retire pas plus d'une certaine somme pour un euro ou un dollar misé quand on joue. En France, par exemple, pour un euro misé, le casino ne peut pas recevoir plus de 15 centimes. Donc il y a des programmations, il y a des sécurités qui font que si le bandit manchot est trop favorable au casino, le logiciel va faire obligatoirement gagner le joueur qui arrivera après.
Donc la D'accord. chance est pipée en quelque sorte quoi.
Avec les bandits manchots, oui, c'est pour ça que les professionnels à Las Vegas se tiennent éloignés des bandits manchots et préfèrent jouer aux cartes. Parce que là, ils peuvent compter les cartes et ils peuvent mieux établir leur chance. Et il n'y a que leur cerveau et les cartes qui sont à mano. Et ça augmente grandement leur chance de gain, grandement.
Bon, maintenant que je sais à quoi tient la chance, merci beaucoup, Eric Thierry. Je vais aller jouer à l'Euromillion tout de suite en sortant du studio de RTL. Le petit livre de la chance, c'est publié aux éditions du Pommier.
Vous écoutez RTL.